Bonjour, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Toutes nos excuses, on est un tout petit peu en retard, on a eu un petit souci technique, mais tout est rentré dans l'ordre. Il est 13h10, on est le lundi 5 février, j'en profite pour vous souhaiter un excellent début de semaine à toutes et à tous. Dans un instant, Thomas sera avec nous pour l'actualité locale à retenir en ce début de semaine. Et puis on s'avance déjà à ce week-end, très bel événement à ne pas manquer, samedi prochain à Sainte-Fortunade. La confrérie de la farcidure et du Millassouille organise une vente de farcidure. Je serai au téléphone dans quelques minutes avec le grand maître de la confrérie, Marc Robert. Dans la première demi-heure également, vous entendrez la chronique de Guy Desclos. Guy Desclos qui est psychologue, psychanalyste et spécialiste des adolescents. À 13h30, le journal régional présenté par Sébastien Péjou. En deuxième partie, Philippe Dodeville sera avec nous pour parler des découvertes musicales de Nouvelle-Aquitaine. Philippe qui interviendra, sachez-le, tous les lundis. Et puis le Limousin pourrait bientôt avoir le premier centre LGBTI+, de son territoire à Limoges. Il en sera question à la chronique en Limousin à suivre à 13h50. Et on terminera par la météo de ce début de semaine avec notre chère Miss Météo qui fait son grand retour en ce lundi. Vous êtes ici sur Bram FM, il est 13h11, on est ensemble en direct jusqu'à 14h. Friendly flames of fire lift us up and take us higher, higher than the Himalaya, way up to Mount Sinai. Et on commence cette émission avec le point info de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Aymeric.
Thomas, les parents d'élèves continuent de se rassembler.
Oui, contre la fermeture de classe, l'association des parents d'élèves de Nav se rassemble tout à l'heure à 14h. Une réunion publique avait déjà été organisée mardi dernier devant l'école de la commune. Ils attendront cette fois-ci sur le parvis de la tour administrative de Tulle la décision finale de l'Académie de Limoges. La carte définitive des suppressions de postes annoncée le mois dernier sera connue dans l'après-midi. Les parents d'élèves de Nav précisent dans un communiqué être prêts à de nouvelles actions dans les jours qui viennent si l'une des classes de leur école venait bel et bien à fermer.
Et la Chambre du commerce et de l'industrie de la Corrèze dresse un état des lieux assez catastrophique de l'activité économique dans le département.
En 2022, la CCI de la Corrèze a enregistré 68 entreprises corréziennes en situation de liquidation. En 2023, leur nombre a doublé, atteignant 118 entreprises dans ce cas. Mais ce n'est peut-être pas le plus alarmant. Sur la même période, le volume des retards de paiement des factures a augmenté de 68%, ce qui peut permettre d'imaginer assez bien la situation trésorière des entreprises corréziennes. Et les secteurs les plus touchés par cette crise économique sont les commerces des centres-villes, les entreprises du bâtiment ou encore celles de l'immobilier. De son côté, la présidente de la CCI de la Corrèze, Françoise Kerr, l'admet. Pour éviter la récession, on doit faire preuve de résilience.
Et puis la ville de Tulle organise une réunion publique sur les mobilités, Thomas.
Comment partager la ville? Comment fait-on coexister bus, vélo, voiture, piéton? La ville de Tulle vous demande votre avis. Vous pourrez en débattre ce soir à 18h. La mairie prévoit un temps d'échange d'environ 2h et la réunion publique se déroulera dans la salle de réception de l'hôtel de ville. Vous pouvez y accéder par le parc du bâtiment.
Merci Thomas, c'est tout pour aujourd'hui.
Oui, à demain.
Alors à demain.
Vous êtes ici en direct jusqu'à 14h sur Bram FM.
Des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. De lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour.
j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, j'perds le nord, garde-forme, quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, de l'eau. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, de l'eau.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et comme promis aujourd'hui, en ce lundi sur Bram FM, on parle farcidure et miyasu. On va se régaler samedi prochain à Sainte-Fortinade, événement à ne pas louper. On en parle avec Marc Robert. Bonjour Monsieur Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Bram FM aujourd'hui. Vous êtes le grand maître de la confrérie de la farcidure et du miyasu qui organise cet événement donc samedi à Sainte-Fortunade. C'est une vente de farcidure. Il faut réserver, je pense. Hein, il risque d'y avoir du monde pour cette vente.
Oui, mais il faut réserver, mais vite, vite, parce que comme d'habitude, il risque de ne plus y en avoir avant le milieu de la semaine.
Avant le milieu de la semaine, donc le mieux c'est d'appeler aujourd'hui, demain ou plus tard, mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez appeler. On rappelle le numéro, Marc Robert.
Alors là, je ne l'ai pas en tête, désolé, c'est le restaurant Lagarde à Sainte-Fortunade.
Ah, alors le restaurant Lagarde à Sainte-Fortunade, ben justement je l'ai sous les yeux, c'est le 05 55 27 13 22, si je ne
Tout
dis pas
fait.
De bêtises. Voilà.
Je comptais ça.
Très bien. Vous organisez régulièrement des ventes de farcidures, la confrérie à Sainte-Fortunade. La prochaine, ce sera quand, du coup?
Ah, ben là, il n'y en aura plus. Ce serait une vente de miyasu. C'est deux fois pendant la période d'hiver. C'est deux ventes que l'on fait de vente de farcidures et une vente de miyasu. Et la prochaine qu'on fera les farcidures, ça sera pour le chapitre le 28 septembre. 2024.
Bon, bah, alors une autre occasion de réserver, hein, puisque...
Non, là, c'est dont nous recevons des confréries, mais il n'y aura peut-être pas, à ce moment-là, il y aura aussi des farcidures et des miyasu.
D'accord.
Et pour faire goûter à nos amis qui viennent d'ailleurs de la région Aquitaine et autres.
Ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait absolument réserver, une autre bonne raison de réserver pour la vente qui concerne samedi prochain à Sainte-Fortinade, puisqu'il n'y aura plus d'autres avant le 28 septembre de toute façon. Marc Robert, je rappelle que vous êtes le grand maître de la confrérie de la farcidure et du miyasu, une confrérie qui existe depuis combien de temps maintenant?
Elle a été créée donc en 2024. Mmh. Donc là,
En
2004, et ça sera son 20e anniversaire.
Bon, l'occasion de fêter ça, évidemment. Vous êtes aussi partenaire avec d'autres confréries du territoire?
Oui, enfin, nous ne sommes pas partenaires, nous sommes amis. Oui. Et donc, chaque confrérie est bien spécifique à un produit de la région. Et donc, nous avons cet avantage de nous déplacer chez les confrères amis. Oui. Et eux se déplacent chez nous quand on fait notre chapitre.
D'accord. Et alors, si vous êtes basé à Sainte-Fortunade, ce n'est pas par hasard, hein, puisque voilà, vous êtes beaucoup de Fortunadés hein, à faire partie, à être les membres historiques de cette confrérie.
Ah oui, oui. Donc, nous sommes 36 membres. Et donc, tous sont de Sainte-Fortunade et quelques-uns aux extérieurs. Et c'est pour faire valoir la farcibure, qui est un plat typique de la commune, et le miassou, qui est un peu plus connu aux alentours.
Bon. Est-ce qu'on peut... Alors, évidemment, vous, vous connaissez ça par cœur. Moi, je vous avoue qu'à la base, je ne suis pas de la région. Comment on fait une bonne farcibure ? Ça, ça m'intéresse.
Ah, ça vous intéresse.
Ah, ben donc... oui.
Donc, une bonne farcibure, il faut d'abord avoir de bonnes pommes de terre.
Bon. Quel genre ?
Ben, style Star Spunta ou Mona Lisa. Donc, on fait du 50-50. Donc, râpé finement.
Hein, ouais.
Égoutté. Et on reconstitue avec un petit morceau de lard dans une et dans les autres, une petite boulette de farce. Et tout ça cuit dans le bouillon du petit salé et de l'andouille qui est préalablement cuit.
Et il faut l'accompagner avec... avec
alors, vous l'accompagnez, donc, bien sûr, avec le petit salé et l'andouille, ou sinon, avec un bourguignon, ou...
Ouais, un bon bourguignon, c'est pas mal, ouais. D'accord. Avec Marc Robert, aujourd'hui, Marc Robert, qui est le grand maître de la confrérie de la farcidure et du miassou, basé à Sainte-Fortunade. Je vous rappelle l'événement de ce week-end, il y aura une vente de farcidure. Au fait, on n'en a pas parlé, monsieur Robert, il faut aller les chercher où, ces farcidures, une fois qu'elles ont été réservées?
Alors, dans le parc du château, et amenez vos récipients.
D'accord, parce que ce ne sera pas fourni, hein, il faut amener ces récipients. Donc. Le rendez-vous, donc, c'est à partir de 11h, 11h30, c'est ça?
11h30.
11h30, hein. 11h30 pétante, voilà. Voilà, au parc du Château.
11h30 pétante, midi moins le quart, hein, jusqu'à midi et demi.
Très bien. C'est noté donc pour le rendez-vous. Et je voulais vous demander autre chose. Imaginons que, bon, peut-être pas moi personnellement, mais quelqu'un veut faire partie de votre confrérie. Comment on devient membre de la confrérie de la farcidure et du miassou ?
Il faut être parrainé par un membre.
Oui.
Hein, par un membre de la confrérie, lequel présente son candidat. Mmh. Et à une assemblée générale, il est accepté ou non accepté.
Et les conditions d'acceptation, elles sont difficiles.
Ben, qu'ils soient présents, qu'ils présentent bon, les critères, c'est-à-dire qu'ils aiment déjà les farcidures, c'est déjà un bon point, et, oui. Et qu'il ait l'envie de partager les bons moments de la confrérie, parce qu'il n'y a pas que faire les farcidures et les miassou, il y a aussi se déplacer ailleurs, faire des opérations comme on a fait l'année dernière.
Oui.
Une opération miassou pour la Ligue contre le cancer.
D'accord, très bien. Et puis pour mettre en avant, évidemment, votre confrérie, ça va sans dire.
Tout à fait.
Voilà. Vous organisez, hein, je le rappelle, une vente samedi, une vente de farcidure, hein, je précise, samedi au parc du château de Sainte-Fortunade. Il faut réserver, vous appelez le restaurant Lagarde. Avis aux intéressés. Merci d'avoir été avec nous sur Bram FM. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Et puis peut-être à samedi, qui sait.
Merci, merci, au revoir.
Vous êtes ici en direct jusqu'à 14h sur Bram FM.
13h24, on est un tout petit peu en retard. Maintenant sur Bram FM, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Desclos, psychologue et psychanalyste. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous, Guy, la scarification chez les adolescents.
Oui. Donc, bon, alors pour faire suite à mes interventions précédentes, hein, pour essayer de cerner un petit peu les problématiques adolescentes, hein, il me semblait que les scarifications... avait une part importante dans une problématique qu'on retrouve chez les personnes en général, mais particulièrement avec un sens peut-être particulier chez les adolescents. Donc, comme pour le piercing ou le tatouage, la scarification vient marquer, on peut dire, un passage vers un autre état. Ou laisser une trace d'un événement important. On y reviendra un petit peu plus tard. Si le tatouage fait également appel à l'effraction corporelle hein, et à la souffrance parfois, toutefois, on ne retire rien dans le tatouage. Dans la scarification, il s'agit au contraire de retirer de la peau un bout de corps, un bout de soi. Lorsqu'on entend le terme de scarification, donc on pense aux actes rituels, voire religieux, au marquage du corps. On pense déjà à ces hommes et à ces femmes des tribus africaines, par exemple, qui se traçaient des lignes ou des points jusque sur leur visage pour paraître à la fois conformes aux attentes initiatiques et aux canons de beauté en vigueur. Donc il y a pas mal d'ouvrages qui font état de ces marquages. La peau noire ou les peaux noires cicatrisant en général assez mal et forment facilement dans ce qu'on appelle des kéloïdes, c'est-à-dire des poussées de peau cicatricielles gonflées et dures. Les cicatrices apparentes suite à des blessures volontaires peuvent donc former des tracés esthétiques ou tout au moins décoratifs. Donc il y a une fonction, on reverra ça un petit peu, de rituel, hein, de passage, en tout cas de l'enfant à l'âge adulte, dans les scarifications. En tout cas ce qui a été travaillé dans certaines communautés, peut-être, ou dans certaines ethnies. Et il y a aussi un côté, bien sûr, esthétique. Alors, les scarifications, donc l'étymologie... De scarification, ça vient du mot du latin dans scarificare, hein, qui signifie inciser. La scarification médicale est déjà pratiquée donc dans l'Antiquité, mais surtout au XVIe siècle et XVIIe siècle, avec l'utilisation de la saignée. Donc on retrouve ces incisions. Dans les temps les plus reculés et au niveau déjà médical. Les scarifications sociales, donc en Afrique, comme je le disais en introduction, la scarification sociale a une origine ancienne et on la trouve couramment pratiquée en Afrique, donc Afrique de l'Ouest notamment, où elle a remplacé le tatouage qui se distingue mal sur les peaux sombres. Elle revêt donc une signification particulière et comme je le disais, donc, elle a une fonction de rituel de passage à l'âge adulte ou une fonction d'appartenance à un groupe restreint. En Australie et en Nouvelle-Guinée, donc les aborigènes d'Australie et certaines tribus de la Nouvelle-Guinée pratiquent et ont pratiqué toujours la scarification. Alors si je dis pas de bêtises, ce qu'on appelle un peu les tatouages par exemple de forme tribale hein, qui viennent raconter finalement une histoire et une appartenance à une communauté ou un groupe. En Occident, donc, les scarifications a attiré des adeptes des modifications corporelles où elle prend plusieurs noms. Alors on peut l'appeler cutting, burning, branding, selon la méthode utilisée. Hein. Et la scarification laisse volontairement des cicatrices visibles lorsque l'aspect esthétique est au cœur de la démarche. Elle fait partie donc des modifications corporelles et s'apparente au tatouage. Mais lorsque la douleur et la volonté de détruire s'érigent en but, elle s'apparente à l'automutilation et elle peut révéler un comportement pathologique ou mortifère. J'aurai l'occasion d'y revenir, notamment au niveau des adolescents. Elle représente également parfois chez les groupes de jeunes une façon d'exercer le leadership et de provoquer le mimétisme. Au niveau du mimétisme, on trouve ces conduites des fois qui sont particulièrement difficiles et délicates dans les institutions où on voit par exemple des formes de propagation, des scarifications chez des groupes de jeunes par exemple, notamment chez les filles. Hein, des phénomènes un petit peu hystérisation, on va dire, des scarifications. Avec, quand on étudie ces phénomènes dans les groupes, un exercice de pouvoir avec un leadership donc qui peut être exercé par la personne qui fait les premières scarifications ou les plus importantes ou les plus fréquentes, etc. etc. Alors, les méthodes de scarification, donc, dans le cadre des modifications corporelles, on peut distinguer deux sortes de scarifications, les scarifications en relief et les scarifications en creux. Donc, les premières, les scarifications en relief, qui s'obtiennent en incisant simplement la peau, et les deuxièmes, en enlevant une partie de l'enveloppe superficielle de celle-ci, toutes ces blessures restant bénignes, dont on appelle ça le cutting. Une autre méthode encore consiste à brûler superficiellement la peau, donc on appelle ça le burning ou le branding. Voilà. Donc il y a des scarifications, notamment avec des fers rouges. Enfin, là, on rentre vraiment presque dans la pathologie, dans la psychopathologie en tout cas. Mais voilà, on a vraiment toutes ces nuances de quelque chose qui peut aller du côté de l'esthétique à quelque chose qui peut vraiment signifier une problématique peut-être même psychiatrique à certains niveaux. Et on verra aussi qu'en psychiatrie, peut-être aussi on fait des distinctions sur l'endroit du corps où sont pratiquées les scarifications. Les scarifications donc psychologiques ou automutilation, la scarification permet donc l'expression d'une souffrance psychique, psychologique. Les personnes donc qui pratiquent cette automutilation témoignent généralement de mieux-être après s'être mutilées. Cela, bien que paraissant paradoxal, comment effectivement peut-on se faire du bien en se faisant du mal? Ça peut s'expliquer par plusieurs phénomènes que j'essaierai de rendre compte. D'abord sur un plan purement organique, les scarifications, elles provoquent la diffusion dans le corps d'endorphines, donc qui sont les hormones du plaisir, et qui sont libérées au moment de la scarification. Et on peut aussi, on verra chez les adolescents, retrouver des tendances addictives temporaires ou plus durables à cette pratique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeunes ou des adolescents qui tombent dans des comportements tout à fait addictifs par rapport aux scarifications. Donc peut-être là, après avoir tracé ces grandes lignes générales sur les scarifications, on pourra reprendre ça un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que ça représente, la scarification à l'adolescente ? Le sens qu'on peut donner et puis surtout comment on peut accompagner les familles et les jeunes qui font des scarifications, puisque ça rentre aussi en ligne de compte dans la prévention des risques suicidaires. Hein. C'est vraiment un signe précurseur, souvent de souffrance intrapsychique qui peut amener soit une hospitalisation, soit un traitement des risques suicidaires. Alors peut-être quelques références comme je fais d'habitude. Donc un ouvrage de Marion Hazard, qui est une universitaire, j'avais dû en parler déjà, qui est aussi spécialisée au niveau des réseaux sociaux chez les adolescents. Donc un ouvrage qu'elle a écrit, Scarification chez l'adolescent suicidaire, un article en tout cas dans la revue Adolescence. Et puis une autre spécialiste des scarifications, une psychologue donc qui doit intervenir sur Paris 7 peut-être, les scarifications chez l'adolescent, donc Fanny D'Argent, voilà. Et ensuite un auteur donc, qui est décédé maintenant, que j'avais déjà cité les fois précédentes, Annie Biro, et qui a écrit donc L'énigme du suicide à l'adolescence. Voilà, donc ces trois références pour le moment. Et puis on aura l'occasion peut-être de revenir une fois prochaine pour préciser un petit peu ça.
C'est noté. Merci beaucoup Guy, et je rappelle que vous pourrez retrouver toutes les chroniques de Guy Desclos en podcast sur bramfm.com.
Vous êtes ici en direct jusqu'à 14h sur Bram FM.
On est en direct jusqu'à 14h, vous êtes ici, on est un petit peu en retard aujourd'hui, problème technique oblige. Il est 13h35 et largement le temps d'écouter votre actu régionale présentée par Sébastien Péjou.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjoux.
Bonjour à tous. Lundi 5 février 2024, une opération de dépollution à Limoges aujourd'hui. Hier, les pompiers et les agents de Limoges Métropole ont mis en place 4 barrages pour éviter la propagation du polluant en amont du lac du Jura. Il s'agit d'une pollution à l'hydrocarbure dans la rivière Orance. 4200 poussins ont péri dans un incendie hier à Glandon, dans le sud du département de la Haute-Vienne. Un bâtiment agricole de 400 mètres carrés a pris feu hier matin. La défaillance du système de chauffage serait à l'origine du sinistre. Une douzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés en provenance des casernes de Saint-Thierry-la-Perche et de Lubersac en Corrèze. Les habitants d'Excideuil en Dordogne reprennent leurs esprits après un impressionnant éboulement en fin de semaine dernière. Toute une partie de la falaise qui borde la route menant à Thiviers s'est effondrée, route qui s'est affaissée sous le poids des gravats. Certains riverains ont même été privés d'eau quelques heures puisque l'éboulement a abîmé les canalisations d'eau potable. Aucun blessé, mais la plus proche habitante a dû être relogée. Pour le moment, la route est fermée jusqu'à nouvel ordre, l'accès est même interdit. Des expertises doivent être menées ce début de semaine afin de connaître la fragilité ou non du reste de la falaise. Pas de falaise sur les voies et pourtant, de nouveaux retards ont été enregistrés sur la ligne POLT. Hier, dimanche, 2 trains Paris-Brive et 1 train Paris-Cahors ont été arrêtés entre 2h30 et 3h. Des retards qui ne sont pas liés aux travaux en cours sur la ligne, puisque c'est une panne de la locomotive d'un train Brive-Paris en gare de Vierzon qui a causé une réaction en chaîne, provoquant ces retards donc. La SNCF a offert des plateaux repas aux voyageurs. Plusieurs rencontres sportives ont dégénéré en Limousin samedi. En Creuse d'abord, des joueurs de l'équipe de foot de Libourne ont été pris à partie. Leur bus a même été caillassé. Les faits se sont produits après la rencontre contre l'équipe des moins de 18 ans à Guéret. Une cinquantaine de jeunes supporters creusois s'est d'abord attroupée devant les vestiaires de Cher Duprat avant de vouloir en découdre. Il aura fallu l'intervention des forces de l'ordre. L'incident n'a fait aucun blessé. À Limoges, le comportement violent de supporters a même provoqué carrément l'arrêt du match au stade de Puy-la-Roda. La rencontre opposait la JS Lafarge-Limoges à l'amicale franco-portugaise de Limoges, un derby de Régional 2. La sécurité des arbitres et des joueurs étant menacée, la rencontre a donc dû être suspendue. Le président de la JS Lafarge devrait déposer plainte aujourd'hui. Le club tiendra d'ailleurs demain, mardi, une réunion extraordinaire. Cyril Jonard, 47 ans, s'est qualifié en moins de 90 kg pour les Jeux Paralympiques de Paris. 20 ans après sa médaille d'or à Athènes, le judoka Limougeau se donne les moyens de décrocher à nouveau l'or à Paris cet été. Un nouveau défi pour celui qui a remporté les championnats du monde à Bakou en novembre 2022. En revanche, Fanny Estelle Posvit ne s'est pas qualifiée pour les JO hier. Elle s'est inclinée lors du deuxième tour du Grand Chelem de Paris. Et puis les basketteurs du Limoges CSP se sont inclinés hier sur le parquet de Villeurbanne, défaite 77-66. C'est la troisième défaite consécutive de Limoges en championnat de France. Le CSP se classe 15e. Le prochain match aura lieu samedi à Beaublanc. Le Limoges CSP recevra Dijon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle semaine à tous.
Merci Sébastien Péjoux. Il est temps de découvrir une nouvelle chronique sur Bram FM. Une chronique qui aura lieu tous les lundis, sachez-le. Une chronique animée par Philippe d'Hauteville pour les découvertes, les nouvelles découvertes musicales en Nouvelle-Aquitaine.
Vous aimez les produits locaux, vous appréciez les circuits courts. Eh bien nous, on a un bon plan. Sachez que la Nouvelle-Aquitaine est pleine de ressources musicales à consommer sur place ou à emporter. Bram FM est la radio près de chez vous qui vous les livre chaque jour à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Sur les ondes 98.3 évidemment, et sur notre site Bram FM, vous verrez, il y a un bouton musique locale actuelle dans la playlist, et puis il y a aussi des interviews. Et ça, c'est le plan Radio Découverte Musicale, le plan qui permet de valoriser toute la filière musicale de Nouvelle-Aquitaine, les musiciens, les concerts, les labels, les marchands de disques, les tourneurs, etc., etc. Et musique actuelle locale sur la playlist, ou le contraire, musique locale actuelle, le tout, c'est sur la playlist de Bram FM, et c'est le nom de cette chronique qui vient vous faire part des nouveautés musicales qui font l'événement en Nouvelle-Aquitaine, comme vient de le dire Aymeric. Et je vais, dans cette modeste rubrique, vous présenter le titre coup de cœur de la semaine, qui va tourner dans la playlist de la radio et que vous pourrez retrouver sur le site de Bram FM en cliquant donc sur le beau bouton qu'on vient de vous décrire. Et puis en plus, il y avait toujours la rubrique Les découvertes musicales en Nouvelle-Aquitaine où vous avez des reportages, des interviews. Le dernier en question était Delphine Fournier qui était prof de violoncelle au conservatoire de Tulle. Alors cette semaine, c'est pour le numéro 1 de cette chronique, le groupe Inui. Alors Inui, forcément, vous vous dites, non, il a du mal pour son nez, et ça veut dire Inui ou Inuit, mais bon, Inui. En fait, non, c'est bien le groupe Inui, I-N-U-I, dont je veux parler, mais Inui pourrait effectivement qualifier ce groupe, et Inuit le localiser pour ses inspirations. Inui, ce sont deux chanteuses, Clémence Lagier et Valera Vetrano, siciliennes d'ailleurs, d'origine, j'ai vérifié, qui entremêlent leurs voix pour vous emmener dans un transport chamanique et envoûtant qui sont soutenus par une basse et une batterie tenues respectivement par Maya Cross et Dimitri Kogan. Bon, je ne veux pas vous faire une dissertation musicologique savante sur ce que vous allez entendre, mais je vais quand même tenter un... C'est une musique, comme je le disais, d'inspiration électro, primitivo, trans, hypnotique. Voilà. C'est entêtant, sans prendre la tête, c'est plutôt frais et ouvert, et c'est comme une grande inhalation d'eucalyptus, ça dégage les synapses de vos feuilles de chou. Ce groupe Inui, parrainé par le festival... Je répète, le groupe Inui, parrainé par le Festival de Jazz de Crest, a été lauréat du prix Jazz Migration en 2023, ce qui lui permet donc des facilités pour entamer une tournée en 2024. Ils seront à la Fraternelle à Saint-Claude, c'est un peu loin, mais c'est un copain qui tient la boutique là-bas, donc on le salue, Christophe Jauneau, le 24 février donc, et au Théâtre d'Orléans le 3 avril. Et c'est nos amis du collectif Entropie Vacances qui s'occupent de le faire tourner. Alors, ils sont à Brive, c'est pas loin. Et donc, je pense que les programmateurs locaux vont certainement réagir à cet appel programmé Inui, c'est indispensable. Ce prix est venu récompenser donc un premier EP sorti en mars 2023 chez Mazetto Square, label bordelais d'ailleurs. Et je vous propose le titre « Murmuration ». Et juste avant, pour vous rappeler quand même qu'il y a un côté inuit dans ce qu'ils font, eh ben, nous allons un chant inuit par deux femmes qui dialoguent à leur façon, juste auparavant.
Oh,
le groupe Inuit, donc, qui vient de sortir depuis un an un disque qui s'appelle Murmuration, dont on vient d'écouter le titre éponyme. Et je signale qu'il y a d'autres titres qui tournent en ce moment sur la playlist que vous pouvez écouter aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine, puisque c'est une chronique maintenant hebdomadaire qui va vous présenter tout ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Et la semaine prochaine, c'est avec un groupe qui s'appelle les Lehman Brothers. Alors, rien à voir avec la banque, quoique.
À bon entendeur, on suivra ça donc lundi prochain. Merci beaucoup, Philippe, et à la semaine prochaine.
Vous êtes ici sur Bram FM.
Et juste avant de retrouver votre chronique en Limousin, on a le temps de se faire un petit plaisir musical encore. Le Steve Miller Band sur Bram FM.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talking about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
The Joker, c'était le Steve Miller Band sur Bram FM. 13h51, je vous en parlais en tout début d'émission, le Limousin pourrait bientôt avoir le premier centre LGBTI+, de son histoire, à Limoges. Le but est d'accueillir et guider les personnes de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, trans et intersexe. C'est le collectif Limbo qui est à l'origine du projet. Evelyne Sagnier, la trésorière du collectif, est l'invitée de la chronique du jour présentée par Lucie Alix.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine, le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour à tous, la chronique d'aujourd'hui est consacrée à Limbo. Le collectif veut ouvrir le premier centre LGBTI+ du Limousin à Limoges. Le but, accueillir et guider les personnes de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, trans et intersexe. On en parle avec Evelyne Sagnier, la trésorière. Evelyne Sagnier, bonjour.
Bonjour.
Quel serait le lieu idéal, à quoi ça ressemblerait ?
La grande question du local est complexe. Oui, il faut qu'il soit grand, puisque plusieurs associations se joindraient à nous, des associations adhérentes. Il faudrait, dans les meilleurs cas, qu'il soit assez centré dans Limoges, ce qui me paraît compliqué, mais au moins que les transports en commun puissent desservir le lieu. Ce que nous voulons, c'est que ce lieu soit lumineux et vraiment accueillant. C'est très important. Et j'ai oublié de dire une chose importante, je souhaite qu'on crée une sorte de CDI comme dans les collèges et les lycées où il y aura des tas de documentation sur la thématique LGBTI+, bien entendu. Et je souhaite également aussi qu'il y ait vraiment une très grande pièce qui ferait à mon avis plus de 100 mètres carrés où on pourrait mettre une petite cafette et où il pourrait y avoir donc les réunions et des spectacles.
À terme, quelles personnes pourront venir dans le centre ?
De nombreuses personnes tout à fait différentes. Ça peut être des jeunes gays ou lesbiennes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle. Ça peut être des personnes transgenres, des jeunes ou des moins jeunes. Ces personnes se posent beaucoup de questions là sur leur identité de genre et beaucoup sont en détresse. Notamment les personnes adultes qui n'ont pas pu s'exprimer plus tôt dans leur identité propre parce que malheureusement la société était tellement violente par rapport à elles qu'elles ont attendu très longtemps avant de s'affirmer comme transgenre. Et il faut impérativement que nous puissions les accueillir et qu'elles se sentent acceptées et aimées quelque part. Il y a aussi des personnes importantes que nous recevrons, ce sont les parents d'enfants gays, lesbiennes, transgenres. C'est déjà qu'en eux, il y a de la bienveillance, ils ont juste besoin de se rassurer et de comprendre. Parce que le réflexe de parents, ça va être de se dire « qu'est-ce que j'ai mal fait pour que mon enfant soit comme ça ?» Il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'ils n'ont rien mal fait, que ce n'est pas un choix, on est homosexuel, on est transgenre. Point final. Et donc, à nous de les rassurer, de les informer pour que tout se passe bien avec leur enfant et qu'il n'y ait pas, comme encore malheureusement beaucoup, ce rejet des familles qui mettent leur enfant dehors quand ils apprennent qu'il est homosexuel ou transgenre.
Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, de main-d'œuvre en tout cas ?
On a besoin de bénévoles dans beaucoup de domaines. Pour l'organisation de la marche des fiertés, il nous faut des bénévoles pour la sécurité, pour le fonctionnement du village toute la journée. S'il n'y a pas de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main, on ne pourra pas la refaire cette année, tout simplement, hein, parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour ça. La deuxième partie des bénévoles, c'est la gestion courante du centre LGBT, hein, que ce soit la gestion administrative, la gestion financière. Nous aurions vraiment besoin d'un comptable sérieux qui nous donne quelques heures par an. Moi, je fais toute la trésorerie et donc il nous faut aussi des gens pour faire les demandes de subventions, pour la gestion courante du centre. Et puis dans un deuxième temps, mais on en reparlera, il en faudra pour faire vivre le centre une fois qu'il sera créé.
C'est un projet qui demande aussi, je pense, des ressources financières. De quelle manière on peut vous apporter du soutien de ce côté-là ?
Nous espérons une enveloppe pour la création du centre qui viendra du ministère, via la DILCRA. Mais nous avons vraiment besoin de dons. Il faut savoir que nous sommes reconnus d'intérêt général depuis septembre dernier. Donc tous les dons seront déduits de vos impôts à hauteur de 66%. Et pour les entreprises qui seront mécènes, ce sont des dons avec des réductions de 60% sur leurs impôts. Les entreprises, elles peuvent aussi nous aider en faisant des travaux pour nous. Ça peut être aussi des prêts ou des dons de locaux, du don de matériel. Matériel de bureau, mobilier, c'est très vaste. Donc n'hésitez pas, vous regardez le site internet en tapant limbo.fr et vous avez mail, coordonnées, vous nous contactez et on vous répondra avec un immense plaisir.
Pour le Graal, Lucie Alix, RCF Limousin.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Merci beaucoup Lucie Alix pour ce reportage. Il est temps de la retrouver pour la météo de ce début de semaine. Isabelle Védrenne. Salut Isa.
Bonjour Aymeric.
Alors comment vas-tu? Est-ce que tu as passé un bon week-end?
J'ai passé un excellent week-end, comme d'habitude.
Ensoleillé. Ah, comme d'habitude, quand
même. Mais oui, je passe toujours des excellents week-ends, mais je passe toujours des excellentes semaines en ta compagnie.
Oh là là, alors là, parfait. Comment démarrer la semaine?
Je suis ravie de te retrouver, de retrouver tous nos auditeurs et nos auditrices,
ouais,
bien sûr.
Moi aussi, figure-toi, je commence à en prendre une bonne habitude. Alors, dis-nous tout.
Eh bien, figurez-vous, toutes et tous, que je vous conseille vivement de profiter bien de cette dernière journée, car le soleil, eh ben, a pu demain. A pu le soleil.
A plu.
Voilà, ça sera fini. Ça sera aujourd'hui, sans nul doute, la dernière journée ensoleillée de la semaine.
Oh oui. Là.
Et oui. Demain, mardi 6 février, la météo nous promet le retour progressif d'un flux de perturbations. Alors, pour commencer le matin, il y aura des brumes partout sur le territoire corrézien et pas plus de 0 à 5 degrés maximum du nord au sud du département. Et puis, l'après-midi, ces brumes se transformeront partout en nuages pour nous donner un ciel, alors là, bien encombré. Plus de soleil à pu, comme je t'ai dit. Hein. Pas la moindre éclaircie non plus. Et puis, un mercure à la baisse. Hein. On amorce une baisse pour cette semaine. Il fera 8 degrés à Trégnac, 9 à Égletons, Userche et Beaulieu, 10 degrés à Tulle et à Brive et une maximum de 11 pour Argentat. Un retour vers un temps davantage de saison, dirons-nous. Ça baisse.
Ouais, ça baisse, voilà. Mais ça reste relativement correct l'après-midi. Quand même,
voilà. Hein. Probablement, je vous annoncerai de la pluie au cours de la semaine, mais... D'ici là, je cultive le mystère et il faudra être de retour demain, même heure, même lieu, pour écouter les nouvelles aventures de la météo.
Et même fréquence. À demain, Isa.
À demain.
Merci beaucoup Isa, merci également à Thomas pour les infos, Philippe d'Hauteville pour sa nouvelle chronique sur les découvertes musicales en Nouvelle-Aquitaine. Merci également à Marc Robert de la confrérie de la fricadure et du miyassou, de la farcidure, pardon, pourquoi je dis la fricadure, c'est nouveau, ça vient de sortir. Merci également à Guy Desclos pour sa chronique sur les adolescents, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur bramfm.com. Je vous dis à demain, même heure, même fréquence, et d'ici là je vous souhaite une excellente journée à tous. Et à tous. Salut !